On vient parmi nous, donc c'est bon. Alors, je vous souhaite après-midi.
Et puis aussi, et c'est pour ça qu'il est là avec nous, il a coécrit avec Elisabeth Campos une étude qui s'intitule « Vampire, une histoire sanglante au bouton électrique ». Et donc là est vraiment un historique de la littérature vampirique. Et donc, il va nous parler maintenant du vampire dans la littérature populaire au XIXe siècle. Richard.
Alors, bonjour. Voilà. Souvent, les gens pensent que la littérature vampirique a commencé avec Dracula. Donc, en 1897.
Alors, vous l'avez lu. Non, c'est bon.
C'est bon ? Non, c'est pas bon. C'est bon ?
T'as pas pris le bon ? Vas-y.
C'est bon ?
Non, hop, vas-y.
C'est bon ? Oui ?
Non.
C'est bon ?
Oui.
Donc on pense souvent que la littérature. Vous êtes toujours, pardon.
Non,
j'ai. Marquez, qu'est-ce que vous faites là? Tu me casses tout le spectacle.
Oui, c'est vrai.
Non. Ah, c'est bon là. Voilà.
Donc, on pense souvent que Dracula, que toute la littérature vampirique, a commencé avec, en 1897, avec un roman qui s'appelle Dracula, mais c'est oublié que Dracula n'est pas sorti comme ça du néant, que Bram Stoker a puisé chez des auteurs, chez des prédécesseurs, et que la littérature vampirique, donc, était plus ancienne que ce grand chef-d'œuvre qui a marqué vraiment son tournant vers le best-seller, si on peut dire. Et donc, la partie qui va nous intéresser ici, ça se concentre sur un siècle, en gros. Ça se concentre donc fin 18e, fin 19e. Et cette partie de cette littérature, elle-même n'est pas sortie comme ça du néant. Elle est sortie de toutes les traditions qui remontaient assez loin dans le temps et qui avaient fait fureur les histoires de vampires en tant qu'histoires réelles et histoires sensationnelles, avaient fait fureur au XVIIe, au XVIIIe siècle, notamment avec la fameuse épidémie de Bohême-Moravie qui avait défrayé la chronique de l'époque. On parlait du vampire, donc au siècle des Lumières, le vampire faisait partie de ces sujets qui étaient un peu maudits par les philosophes des Lumières. Voltaire a écrit des textes incendiaires contre le vampire, il n'a pas été le seul, parce que, donc, à cette époque-là, le vampire était devenu donc, un sujet dont on causait, non pas dans les campagnes françaises, faut pas exagérer, mais dans les cercles plus lettrés, les gens qui s'intéressaient à ce qui se passait un peu dans le monde. Et c'était un sujet, donc, tout à fait sensationnel, mais qui a été littéralement... qui a été terrassé par les Lumières. C'est-à-dire qu'après avoir défrayé la chronique, donc le vampire est devenu un objet sous l'influence des philosophes, sous l'influence de livres comme celui de Don Calmet sur les superstitions. Donc on est arrivé au XVIIIe siècle, vers la fin du XVIIIe siècle, à ce que le vampire, qui était quelque chose qui envahissait totalement la vie des gens qui habitaient des populations de l'Europe centrale, qui fascinait les élites en Occident, soit devenu d'une espèce de moins que rien de la superstition, c'est-à-dire que comme les Lumières luttaient contre la superstition, contre tout ce qui était contre la science naissance et tout, comme ça, le vampire avec les démons est passé à la trappe. Et tout le monde pensait, à la fin du XVIIIe siècle, que l'affaire était finie, que le vampire avait disparu avec tout un tas de scories, si on peut dire, en matière de superstition, et que cette tradition qui datait quand même de au moins. De plusieurs siècles, si ce n'est pas de millénaires, si on remonte aux origines des monts buveurs de sang, on va jusque dans l'Antiquité. Donc il y avait quelque chose comme ça qui passionnait les gens, Et puis tout d'un coup, on leur a expliqué, on leur a démontré que tout ça c'était de la fumisterie, que c'était même pas l'œuvre du diable, que c'était l'œuvre de l'ignorance. Et le vampire était. Ces vampires monstrueux qu'on avait fréquentés dans l'actualité, si on peut dire, avant le XVIIIe siècle, ces vampires étaient plus sortables et qu'il fallait oublier ça, c'était fini. Donc en fait, le vampire était extrêmement mal en point à la fin du XVIIIe siècle. Et en fait, il a été sauvé par la littérature. Mais ça ne s'est pas passé. Ça ne s'est pas passé d'un coup, ça ne s'est pas passé sans mal. Mais ce qui l'a beaucoup aidé à faire, c'est qu'à la fin du XVIIIe siècle, il est apparu un type de roman qui s'appelle le roman gothique, des histoires à faire peur, une sorte de fantômes, de châteaux hantés, de choses très très bizarres et comme ça, et qui était vraiment conçu pour faire peur au lecteur, même si la plupart du temps c'était expliqué à la fin. Les auteurs les plus connus de ce genre, c'est Anne Radcliffe, G. Lewis avec Le Moine. Donc c'est des auteurs qui ont lancé une mode littéraire, qui dans ces temps troublés sans doute a pris plus que les auteurs l'auraient pensé. Ça a vraiment bien pris la recette, si on peut dire, parce que c'est devenu vite une recette, comme toute littérature qui possède des codes très, finalement très stricts. C'est très difficile de s'en écarter, et au bout du 10e ou 20e roman, ça devient un peu la même chose. Quoi. Et les romans gothiques, les romans noirs, sont devenus, lentement mais sûrement, un genre très très codifié. Au début des années, au début du 19e siècle, il y avait on peut trouver des compilations comme ça de titres, c'était des compilations officielles pour savoir l'histoire de la faire peur, l'histoire fantôme et tout comme ça. On s'aperçoit qu'au début du 19e siècle, c'était une vraie production de masse, quoi, remise dans le contexte, ça n'a rien à voir avec une production de masse de maintenant. Mais c'était ces histoires noires, ces histoires gothiques, c'était un genre qui s'était installé et qui ronronnait un peu, qui tournait un petit peu en rond. Et ce qui s'est passé, c'est que parallèlement à ça,
on va changer de micro.
Non, mais si vous m'entendez, je peux parler comme ça.
Hein. Oui, non, mais pour enregistrer, Olivier.
Ah,
oui,
ce qui s'est passé, c'est que parallèlement à cet engouement pour les histoires mystérieuses, les histoires de morts vivants, de pseudo-morts vivants, de fantômes et tout, le vampire a non pas repointé ses canines, mais au moins a repointé un bout de l'oreille, et par un détour qu'on pourrait trouver un peu étrange pour ce genre de récit, c'est par la poésie, par des poésies qui racontaient, des poèmes qui racontent, toute une histoire, si on peut dire, et notamment chez des auteurs allemands, que le thème de cette créature qui viendrait ensorceler un peu les gens, et donc c'était c'est des créatures féminines qui viennent ensorceler et qui vite de leur vie et en buvant leur sang, de plus ou moins malheureux et téméraires jeunes hommes ou des fois des gens plus âgés, ne font pas attention à qui ils sortent le soir. Et donc, la thématique du vampire, qu'on croyait disparue, ressort, mais timidement. Ça ne se voit pas, c'est juste. Derrière les romans gothiques, dans cette ambiance gothique, dans cette ambiance romantique où tout à coup il y a toujours une fascination pour tout ce qui touche la mort, on le voit bien dans certains peintres de l'époque qui sont spécialisés littéralement dans la représentation de la mort, des cimetières, qui font d'ailleurs des tableaux qui sont absolument, même maintenant, qui sont très très on les sent pénétrés par ça, quoi. Donc c'est des tableaux qui ont toute leur force encore maintenant. Et dans cette ambiance, le vampire se revient un peu aux affaires, si on peut dire, et il attend qu'une chose, quoi, je veux dire, qu'un moment décisif, c'est de passer dans la littérature en prose. Parce que bon, la poésie c'est bien, mais ça touche absolument pas un public très très large. C'est quand même là aussi très codifié, on ne peut pas raconter, on n'est même pas encore avec des poètes comme Nerval, des gens comme ça, qui vont raconter des trucs horribles, je veux dire, en vers. Là, on est dans le tout juste dit, c'est suggéré comme ça, car oui, il y a des êtres comme ça qui circulent et dont il faut se méfier et qui boivent le sang. Et donc, ce raccord se fait petit à petit avec toutes ces légendes et cette superstition, comme disaient les philosophes des Lumières, qui se passait avant, qui était très, très en vogue avant. Donc on a là des vampires qui réapparaissent et ils attendent le bon moment. Et le bon moment va venir sans qu'on l'ait vu venir, justement. C'est-à-dire qu'en 1816, au bord du lac Léman, donc il y a des gens qui s'appellent Byron, Shelley, sa femme Marie Shelley, et le médecin John Polidori, qui, suite à une idée sans doute née comme ça, à la suite d'un bon repas ou quelque chose comme ça, disent, ben voilà, on va faire une histoire qui va faire peur, qui va vraiment... c'est un concours, on se fait un concours entre nous, le premier qui arrive, donc il y a Byron et Marie Shelley et Polidori qui se lancent là-dedans. Le grand, l'immense succès qui va sortir de ça, évidemment, c'est Frankenstein de Marie Shelley qui sera issu de ce concours au bord du lac. Et il y a un autre texte qui va avoir tout autant d'importance. Même si c'est une nouvelle, non pas un roman, donc il partait déjà avec un handicap pourtant, c'est le vampire, un texte qui s'appelle Le Vampire. Alors qu'on pense que, en fait, John Polidori avait fait quelque chose de son côté, Byron avait fait quelque chose de son côté, avait plutôt commencé une histoire qui était. Bon, finalement, pour résumer, Polidori aurait terminé l'histoire de Byron. Et en 1819, est publié dans une revue anglaise un texte s'appelle Le Vampire et qui est signé Byron et pas Polidori, qui en a écrit au moins les deux tixièmes ou quelque chose comme ça. Donc toute une histoire s'ensuit parce que Polidori prend ça mal, parce que c'est lui qui a écrit la nouvelle, et Byron est plus connu, donc c'est Byron qui signe, et puis Polidori, qui avait d'autres problèmes à côté. Va se suicider à l'âge de 25 ans, je crois, ne supportant plus cette situation plus d'autres. Et donc, longtemps, on va croire que Le Vampire, signé Byron, c'est Byron qui l'a écrit. Et c'est Montag Summers, qui était un grand spécialiste des vampires, qui, le premier, a fait une enquête et a démontré que Byron n'avait rien à voir là-dedans, sauf peut-être quelques pages du début, et que le véritable auteur, c'est John Polidori. Et c'est un texte qui est, quand on le lit, qui a beaucoup vieilli, qui fait il y a des longueurs, il y a des choses, c'est pas extraordinaire comme ça, mais dedans, il y a une grande partie de ce qui va, faire que la littérature vampirique va devenir un succès. Excusez-moi. Et alors, donc, qu'est-ce qu'il y a dans ce texte qui fait que c'est un tournant? Bon, le premier, c'est que c'est un texte en prose. Là, on a une histoire qui part en revue, une véritable histoire. Donc déjà, ça touche un autre public. Ça c'est déjà important. Et ce qu'il y a, c'est que ce texte présente pour la première fois le vampire sous un jour qui est différent de celui qu'on connaissait avant. C'est-à-dire qu'avant, quand le vampire donc présentée dans tous les textes du XVIIe, XVIIe, XVIIIe siècle, notamment donc ceux de, d'Europe centrale, de Bohème-Moravie, c'est des vampires qui sont des choses abjectes. C'est des vampires à moitié pourris qui sortent Non, mais c'est vraiment. Il ne faut pas oublier, ça ne se passe pas dans des grandes villes, on n'est pas dans le cimetière de Highgate à Londres et tout comme ça. On est au fin fond de la campagne, donc, d'Europe centrale. Il fait froid la moitié de l'année, c'est encore pire que le Canada. Et donc, il fait gris, froid, pluvieux et tout comme ça. Et dans cette ambiance déjà vraiment glauque, c'est des petits villages qui sont restés carrément au Moyen-Âge et où les cimetières semblent soudain habiter d'une vie contre nature, quoi. C'est-à-dire qu'on enterre des gens et puis on enterre le père de famille ou l'oncle ou je ne sais pas trop quoi, comme ça, et après, 3-4 jours après, il y a quelqu'un dans la maison qui dit « mais j'ai vu passer l'oncle machin » ou « j'ai vu passer le voisin comme ça, dans un état de pas de décomposition, parce que c'est des vampires, qui se décomposent comme ça à tour de bras. Ils passent relativement propre, enfin pas trop décomposé, mais comme ils étaient déjà plutôt pourris, enfin pas terribles, c'est un peu dans le fétide directement. C'est-à-dire qu'on se fait pas, on va pas un il n'y a pas quelqu'un qui arrive une 34 en se transformant en chauve-souris, en brouillard, parce qu'il y a la porte et tout, qui arrive, bonjour. Non, c'est, comme disait, je ne sais plus qui, l'oncle Boris avec ses dents qui manquent et tout comme ça, qui subitement, les gens, ah, l'oncle Boris, il est rentré dans ma chambre, et ça, la femme dit, il m'a peut-être violé, même pas sûr, et tout comme ça. Et surtout, il y a des petits mots comme ça, c'est vrai que complètement, ça paraît complètement hallucinant, mais remis dans le contexte de l'époque, les gens étaient terrorisés. En plus, il y avait des épidémies, alors on pensait que l'empire qui circulait était à l'origine des épidémies. Ça, le thème du vampire a toujours été lié justement à des choses comme les épidémies, parce qu'on pensait que non seulement ils allaient peut-être mordre les gens dans leur sommeil, des choses comme ça, mais en fait ils allaient mordre les vaches, ils allaient mordre tout le monde, et donc ils répandaient des trucs absolument néfastes pour la population. Et donc ce qu'on faisait, c'est qu'on allait au bout des tombes, et puis on allait regarder comment s'il y avait quelqu'un, déjà, mais en fait, il rentre la nuit. Et donc, mais surtout, c'est s'il était un peu trop bien conservé pour que ça soit honnête. Et donc, parce qu'au lieu d'ouvrir toute une pièce, ce qu'on faisait très souvent en Europe centrale, c'était qu'on faisait venir un cheval avec un adolescent nu et vierge sur le cheval, et donc on le faisait promener le cheval comme ça, et le cheval, c'est un peu comme les chiens qui cherchent les truffes. Le cheval s'arrête tout à coup parce que il fallait vraiment qu'il y ait je sais pas pourquoi, l'adolescent nu sur le en complet hiver, ça devait être vraiment terrible. Et si le cheval s'arrêtait d'un truc bizarre à côté d'une tombe, ils ouvraient, et alors il se trouvait que des fois on trouvait des cadavres effectivement qui étaient trop bien conservés, mais ça pouvait venir évidemment d'autres raisons, puisqu'on Si on reprend l'histoire, par exemple, c'est des rapprochements qui sont très intéressants. Les histoires de la conservation des saints de l'Église, on s'aperçoit qu'il y a plein de saints dont le signe de sainteté et l'odeur de sainteté qui s'en dégage, c'était des cadavres qui, 3 mois après, n'avaient presque pas bougé. Et en fait, il y a des conservations comme ça exceptionnelles. C'est pas des momies, parce que on a des momifications, on peut avoir dans certains terrains des momifications naturelles de cadavres, et là on a des cadavres qui paraissent à peine touchés par la mort. Et donc évidemment, il s'est trouvé que dans ces villages, et ça, on a effectivement trouvé des cadavres qui étaient qui avaient mieux résisté et tout, donc ça n'a fait qu'alimenter. C'était devenu tellement important que même les autorités envoyaient après des militaires et tout pour gérer ça, pour ouvrir les cercueils, voir si. Enfin, c'était devenu une vraie psychose nationale. Et donc on avait gardé le vampire, c'était pas du tout le vampire comme nous on le voit maintenant, c'était un vampire vraiment répugnant. C'était
un gros dégueulasse.
Ah, il manquait plus Chrysler. Le vampire massif kangourou. Et donc c'était un truc ignoble. Et Polidori, pour en revenir à lui, Polidori, enfin Byron un petit peu, Polidori beaucoup, a changé la donne en faisant non pas un vampire trop dégueulasse, comme tu disais, qui circule et qui finalement ne risquait pas beaucoup d'attirer le lecteur, mais il fait plutôt, lui, le premier prédateur, un noble. Alors là, on a le thème, c'est le noble dévoyé. Donc ça marchait bien aussi à l'époque. Surtout après la Révolution, tout ça, les nobles malfaisants, c'était ça. Mais voilà, on avait quelqu'un qui séduisait. Et ça change. C'est pas toujours l'oncle Boris, nous en parlait, qui sautait subitement la nuit comme ça sur son ex-femme, je ne sais pas pourquoi. C'est avec ses dents en les perdant peut-être au passage, comme ça, quelqu'un de franchement dangereux, de franchement néfaste et dangereux, qui. Par son rire, mais par sa prestance, en fait, c'est un espèce d'escroc, comme on pouvait en trouver, d'escroc de haut vol, si on peut dire, voilà, et qui séduit les femmes, qui séduit même les hommes, d'ailleurs, parce qu'en fait, quand c'est un prédateur, il ne fait pas la différence, on verra que l'homosexualité elle est très très vite liée au vampirisme, parce que pour une simple raison, c'est que le prédateur, eh bien, il chasse ce qui bouge, mais vraiment, il ne fait pas des différences comme ça. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que la littérature vampirique, au départ, a été considérée comme extrêmement malfaisante par les choses qu'elle accusait. C'était très mal vu à l'époque de parler de ce genre de choses. Donc, le vampire de John Polidori, et apporte ça, c'est-à-dire que on est à nouveau entre gens de plus ou moins de bonne compagnie. C'est quelque chose qui n'arrive plus non plus au fin fond de la Bohème ou un truc comme ça, mais qui peut arriver dans les meilleurs salons de l'Europe occidentale et de croiser le début de la nouvelle. C'est ça, c'est des gens, des regards se croisent dans la haute société. Ouais. Et dans la haute société, il y a une espèce de. C'est un sérieux killer, absolument. Mais de l'autre là. Donc, l'histoire de Polidori met tout ça en scène. Et ça, c'est nouveau. Là, on a. Et ça a tellement. Le prédateur poursuit des jeunes femmes, des choses comme ça. Jusqu'à arriver à ses fins, et le héros s'aperçoit que sa fiancée, qui croyait morte d'autres choses, en fait, a été tuée par l'ordre de Ben, qui est le premier grand vampire de la littérature, et qui d'ailleurs a tellement frappé les esprits qu'on le retrouve comme personnage dans des histoires, même maintenant. Kim Newman, par exemple, dans sa série qui commence avec Anno Dracula, qui est un univers parallèle où le comte Dracula s'est marié avec la reine Victoria, et donc il y a toute l'Angleterre qui est devenue un pays, il y a des vampires de tous les côtés. Newman a fait une histoire une histoire parallèle qui continue, puisqu'on a même, ça se poursuit dans la Première Guerre mondiale avec le baron rouge vampire, et donc même le baron von Richthofen, son triple en pierre, c'est un vampire. Et donc, c'est plan rouge déjà. Lord Ben, donc, n'a pas été perdu en cours de route comme personnage, il a réapparu dans l'œuvre d'autres auteurs qui l'ont donné qui l'ont rajouté même de l'épaisseur, parce que dans la nouvelle de Polidori, ça marque parce que on a un personnage nouveau et important, mais après c'est un personnage qui manque d'épaisseur, quoi. La nouvelle fait 15 pages, on n'a pas de quoi raconter sa vie sous tous les détails, et c'est un personnage donc, qui a bien marqué, qui a été repris par d'autres. Et donc, ça a tellement frappé, ça paraît bizarre maintenant, mais ce texte qui sort dans une revue en 1819 en Angleterre est très traduit en France, en Allemagne, un peu partout en Europe, Et il y a même des suites qui sont données. Donc Polidori était déjà plus là, ni Byron qui était mort pendant la Révolution grecque au début des années 1820, ni Polidori qui s'était suicidé. Et de toute façon, le droit d'auteur à l'époque, ça n'existait pas. Alors les deux auteurs présumés et probables ayant disparu rapidement, la nouvelle de Polidori, donc la nouvelle vampire, est traduite et est adaptée au théâtre en France, et on écrit déjà des suites. Voilà. Et l'adaptation au théâtre, d'ailleurs, ça se terminait trop mal, alors donc dans la nouvelle, donc au théâtre, ça termine mieux. Voilà, on change déjà, il y a déjà du bricolage et tout comme ça, donc le texte se répand dans plusieurs langues en Europe. Hoffman, par exemple, va écrire après. Ça déclenche la publication d'un certain nombre de nouvelles écrites par sur le thème, quoi. Mais c'est que des nouvelles qui sont écrites par des gens comme Dumas, comme Hoffman, qui est encore.
Nodier.
Oui, donc ça déclenche une petite mode, mais en fait une petite mode qui montre aussi que le nom et le thème du vampire rentre dans les mœurs, parce qu'en fait c'est accompagné, la mode littéraire est accompagnée aussi, ça j'ai pu le vérifier, que grâce à son rendu à Gallica et d'autres bibliothèques nationales, même genre avec la numérisation des textes, c'est que le terme de vampire commence à apparaître dans les journaux pour désigner des gens ou des sociétés qui vampirisent l'argent des gens. Ça devient un thème qu'on utilise, qui sort complètement de son cadre fictif et de tradition et de folklore, pour venir à un terme utilisé tous les jours pour désigner des sociétés, enfin des gens ou des organisations diverses qui prennent de force leur argent généralement donc à la population ou à des actionnaires, des choses comme ça. Donc on a le terme de vampire se diffuse et devient un terme utilisé couramment. C'est pas un néologisme, mais c'est un truc perdu qui d'un coup reprend du poil de la bête, et avec la presse qui elle devient de plus en plus qui devient populaire et accessible à beaucoup de gens, c'est un terme qui se diffuse et qui se diffuse dans le monde entier. Moi j'ai trouvé sur des journaux australiens, néo-zélandais, des années 1840 et 50, et bien déjà ça apparaît pour parler d'un homme politique, des choses comme ça. Voilà, ça s'installe. Et alors donc, ce qui manquait, c'est le... On ne touche pas encore un public vraiment populaire avec un texte comme celui de Polidori. C'est quand même... Ça paraît dans c'est des revues, c'est le théâtre, c'est quand même pas tout le monde qui est apte à pouvoir bénéficier de ça. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que le saut vers le roman populaire, là on rentre vraiment dans le thème aujourd'hui, il va être fait en Angleterre avec une série en fascicule. Qui s'appelle, que les Anglais surnomment les Penny Dreadfuls. C'est la Penny Dreadfuls, c'est des histoires d'horreur et tout, des histoires de suspense, comme ça, qui sont livrées toutes les semaines, donc sous forme de fascicules. C'est des romans. C'est-à-dire qu'en France, on avait les romans feuilletons qui étaient à la même époque, dans les années 1840. Qui sortaient tous les jours, où les auteurs, les plus grands comme Dumas, donc écrivaient leurs morceaux. Le feuilleton, c'est le bas de la page des journaux. Donc c'est la bande en bas, comme ça. Donc on avait des feuilletons qui pouvaient être aussi des critiques littéraires, des choses comme ça. Mais le truc qui accrochait le lectorat populaire, c'était le roman épisode. Donc le roman feuilleton. Là, c'est un autre système, c'est pas du tout dans les journaux, c'est des fascicules qui sortent en librairie toutes les semaines, et ça ressemble au céréal. Enfin, ce matin, on a vu, pour ceux qui étaient là, on a vu
un film qui était découpé en épisodes et qui était sous les formes du sérieux. On a connu ça au cinéma dans les années 30, 40 et 50. Et bien là, bon, c'était le fascicule toutes les semaines. C'est le nouvel épisode de 32 pages, comme ça, des nouvelles aventures. Et alors donc, un de ces pays dreadful en Angleterre s'appelle Varney the Vampire. Et alors là, on a des auteurs qui créent un personnage, alors qui déjà donc avait, qui déjà s'inspirait donc de Polidori, puisque le Varney est un noble comme ça, et qui a toute une série d'aventures complètement échevelées, parce qu'en fait il y avait deux auteurs et visiblement, enfin on pense qu'ils étaient deux, et visiblement bah, écrire aussi vite, surtout quoi. Plus on est fou, moins ça tient la route au point de vue logique du scénario, parce que déjà que des gens comme Bonson Desdérailles en France, ils avaient tellement de personnages, enfin, si tu verras en Cambol, par exemple, Bonson Desdérailles avait fait revenir des gens, des personnages qui étaient morts 200 pages plus tôt, et donc Bonson Desdérailles avait un truc, c'est qu'il avait des coupes, enfin des petites figurines, ça qui représentait ses personnages principaux, et alors donc c'était quand il y en a un qui était mort, il le couchait comme ça, histoire de ne pas le faire revenir bêtement. Il fallait livrer, et puis tous ceux qui ont tâté de la littérature populaire même maintenant savent bien que quand on en fait vraiment beaucoup, il y a des fois on se prend beaucoup, il faut pas. Et donc Varney, il est arrivé ça, c'est-à-dire qu'il a livré un fascicule toutes les semaines. Et bien le problème, c'est que bon, c'était pas grave qu'il revienne, puisqu'il était déjà mort. Des fois, les auteurs oubliaient ses origines. Alors d'un coup, il était, il avait plus le même passé, comme ça, il changeait de caractère. Mais ça arrivait à d'autres. Hein. Je sais pas si vous connaissez, je fais une digression, mais il y avait un magazine de policiers qui était vraiment policier qui s'appelait Le Saint Magazine, qui sortait en France. Et donc Le Saint Magazine était organisé sous le principe, c'était que dans la version américaine, il y avait une aventure du personnage de Leslie Charteris qui s'appelait Le Saint. Donc, il y avait un court roman, enfin une novelette à chaque numéro, comme ça, une nouvelle aventure. Sauf que Leslie Charteris ne pouvait évidemment pas écrire un truc par mois, quand il avait été un grand auteur de pulp. Il l'aurait fait. Mais là, tu ne le sais pas. Et donc, il y a plein de gens qui sous son nom, écrivaient le court roman du mois. Et on avait, comme ça, c'est facilement vérifiable dans l'édition française, on avait le personnage qui changeait d'opinion politique, qui changeait... c'est très rigolo, quoi. Parce qu'en fait, les auteurs, sans doute, comme ils faisaient ça pour l'argent... puisque leur nom n'apparaissait pas, c'était des auteurs connus dans le lycée, mais chacun y mettait sa sauce et tout comme ça. Donc on avait un personnage qui était. Il n'y avait plus que le physique qui restait pareil, mais tout le reste, tout le mental, les opinions politiques, des choses comme ça, disparaissaient, étaient mélangées, ça changeait tout le temps. Quoi. Ça surprenait au moins le lecteur aussi. Et Varney, notre ami Varney, était quelqu'un de passablement transformiste, si je veux dire comme ça. Et donc, c'est un personnage extrêmement fluctuant, mais, et qui, à la fin, donc, conscient que sa vie contre nature était non seulement contre nature, mais finalement devient un peu saoulant sur les bords, il avait vraiment marre d'être immortel. Et alors, donc, Varney a décidé de se suicider. Enfin, pour un vampire, c'est un peu dur. Alors, il a un peu les grands moyens, il s'est jeté dans un volcan. Là, il n'y a pas de problème, il était sûr de ne pas revenir comme ça. Et donc, l'histoire de Varney le vampire, non seulement c'était. Son importance a été très grande, parce que d'un coup, on a eu un héros populaire, et alors là, dans des fascicules, des Penny Dreadful se vendaient comme des petits mains. Donc, le vampire est passé dans le rayon populaire, mais vraiment, toute une catégorie de la population. Qui avait peu de moyens et surtout pas les moyens de s'acheter des livres ou des revues ou parasser les nouvelles. D'un coup, il y a eu un super héros comme ça qui a été très populaire et qui a fait rentrer le vampire dans la grande distribution. Voilà, c'est un peu dire, voilà. Et Varney a été aussi important parce que il a ajouté aux vampires qu'on connaissait d'avant, qui étaient des gens donc, qui restaient, on ne savait pas trop comment ils faisaient pour sucer le sang et tout. Varney, lui, ajoute des choses qui paraissaient pourtant évidentes. C'était les canines surdéveloppées, tout simplement. Parce qu'il ne faut pas croire, jusqu'à Varney, eh ben, il n'y avait pas le vampire quand il souriait. Il pouvait sourire. Si c'était de bohème morale, rien que de voir ses dents, ça me coupait l'appétit. Si c'était le noble donc, de Polidori, c'était ses yeux qui étaient dangereux, pas ses dents. Avec Varney, tout devient dangereux. Varney a vraiment rajouté quelque chose. C'est que on avait avec Polidori et ses dérivés un vampire qui était un vrai prédateur, mais à la limite, si on ne regardait pas droit dans les yeux, ça c'était vraiment important, c'était le côté hypnotique. Hein, tandis qu'avec Varney, on a tout un tas de choses qui s'ajoutent, et c'est un vampire qui se régénère au rayon de lune. Après, je veux dire ce qui faisait le mieux. Alors, attendez, voilà. Où le produit s'améliore? Alors, la morsure, mais aussi donc, des dents plus longues, le fait de devenir un vampire après avoir été mordu par un vampire. Le crucifix, l'eau bénite et le pieu employés comme moyen de défense. Voilà, La force et la souplesse surnaturelle du vampire, également sa cruauté et son absence de remords. Quoique, à la fin du récit, ben c'est ça, on peut voir que Varney, finalement, à un moment donné, il fait un burn-out. Et donc, burn-out dans le temps perdu. Ouais, c'est le premier vampire vécu d'un burn-out. C'est à peu près ça. Il faudra que je mette ça quelque part.
Combien il reste?
10 minutes.
Oh, tu croyais que je tiendrais pas 45?
Non, j'avais peur que tu tiennes 1h15.
Ah, tu me rassures. Alors, bon, on va faire. Donc Varney, après Varney, le vampire est partout, si on peut dire, puisqu'il est devenu un personnage de littérature populaire à une époque où c'était extrêmement important. C'était comme la télévision maintenant. Maintenant, on parle d'une série et ça fédère beaucoup de gens. Et bien, ce qui se passe avec les séries télévisées américaines à très, très haut taux d'écoute, il faut bien se dire qu'au 19e siècle, avec l'arrivée de la presse et des moyens de l'impression de plus en plus performants qui permettaient de faire baisser les produits donc imprimés, que ce soit les journaux ou les fascicules, immédiatement, et ça va, après ça donnera les pulps aux États-Unis, c'est extrêmement important. C'est comme si d'un coup on découvrait à la télévision maintenant un super personnage qu'on n'avait jamais vu, le vampire. Ben, c'est ça. C'est ce qui s'est passé quand Varney est arrivé sur le marché dans les années 1840. Mais là, donc, on était quand même dans la littérature vraiment un peu juste au temps d'autre, c'est-à-dire au point de vue de qualité. Et ce qui manquait, c'était déjà un meilleur fini. Alors, meilleur fini, on l'a avec un auteur irlandais qui s'appelle Sheridan Le Fanu, qui, avec un texte qui est devenu aussi un immense classique, a été adapté au cinéma dans des versions diverses et variées à plusieurs reprises, avec Carmilla, là, on a un texte qui est un texte très bien écrit, qui est un texte qui vraiment a un succès pas populaire dans le sens où l'avait eu Varney, mais et qui va extrêmement influencer Bram Stoker pour Dracula, mais ça je laisse les successeurs la tâche d'expliquer pourquoi. Et en fait Carmilla reprend, on est toujours avec un vampire qui est dans les milieux de la noblesse, enfin dans la haute société, mais qui est transposé
dans sa région d'origine. C'est-à-dire qu'on a un vampire qui est maintenant, qui repart vers l'Europe centrale, et là donc avec, il y a une espèce de retour aux origines aussi. Ce qui avait été un peu zappé par les auteurs précédents, revient vraiment, il y a un retour au terroir, si on peut dire, voilà. Surtout que Carmilla est inspiré en partie d'un personnage historique qui s'appelle Erzsébet Báthory, qui était une comtesse du XVIe siècle, comtesse hongroise, qui a été condamnée par la justice à être emmurée vivante, parce qu'en fait, elle était, c'est quelqu'un qui pensait que le sang régénérait la vie, et donc qui prenait, qui était accusée, là, apparemment, ça ne se fait pas, qui prenait des bains de sang en faisant enlever et égorger des jeunes femmes. Donc, elle prenait des bains de sang pour se régénérer jusqu'au jour. C'est un peu comme Gilles de Rais, à force d'enlever des gens dans toute la région. Les soupçons commencent à. Gilles de Rais a enlevé des centaines d'enfants pour faire à des fins peu recommandables, dont une partie était manifestement sexuelle et d'autres, une autre partie relevait de la sorcellerie. Quoi. Et il s'est fait coincer entre autres pour ça, et Erzsébet Báthory, parce que c'était très dur de faire condamner des gens qui étaient d'un tel niveau dans la noblesse, il fallait vraiment les prendre. Et Erzsébet Báthory, à force qu'il y ait des plaintes des paysans qui disaient que leur fille avait disparu, que, ah oui, elle est partie comme servante, puis elle se cachait avec, parce que finalement, les jeunes femmes étaient engagées et disparaissaient. Et donc, ça c'était pas très malin, et donc, à la longue, ça s'est su, et ça a fini par, le vase a fini par déborder, il y a eu une enquête, et on s'est aperçu que non seulement elle saignait ses servantes, mais qu'il était bien possible qu'elle les torturait en prime, enfin bon, et elle était surtout à coquiner avec des femmes pour soupçonner d'être sorcières, avec un nain en soirée, en framboyeur. C'est un con. Et alors, il n'y a pas qu'en fantaisie qu'il y a des nains partis. Donc il y a même un nain dans l'histoire, c'est une histoire absolument épouvantable. Il y avait, c'était presque une image d'Épinal, c'était une équipe comme ça. Maintenant, on se dirait qu'un auteur fait ça maintenant, un auteur de fiction, on dit qu'il ne faut même pas pousser trop loin le bouchon. Ben non, là, c'était la vérité. Il y avait le nain, les sorcières, comme ça, et le monstre. Et donc, Erzsébet Báthory, en plus, elle a eu une mort atroce, elle a été emmurée dans sa chambre jusqu'à ce que mort s'en suive. Et donc, son histoire avait continué à être racontée. C'est comme l'histoire de Vlad l'Empaleur. C'est des choses que Gilles de Rais, c'est des choses qu'on n'oublie pas. Quoi. Et Charles Le Panu a repris plus ou moins cette histoire pour en faire donc une version des vampires où là il y a d'abord c'est une histoire donc d'une attirance homosexuelle entre donc Carmilla et puis Lucien, je crois.
Laura.
Ouais, et donc il y a déjà ce côté carrément sulfureux dans l'Angleterre victorienne. Et puis c'est quelque chose de c'est une attirance magnétique. C'est quelque chose là on voit qu'il y a une emprise. Il s'installe là une autre charnière dans l'histoire de la fiction vampirique. On a une histoire qui est à la fois en demi-teinte tout en jouant. Enfin, c'est une histoire très efficace, très bien écrite et qui installe encore là aussi de la nouveauté et puis surtout qui a l'intérêt de relier cette fois-ci le courant fiction vampirique avec avec son terroir original. Donc, on a dans les années 1860, début des années 1870, on a un texte là qui va préfigurer, alors quand même pas mal Dracula, qui va fonctionner en partie suivant les mêmes codes. Alors, bon, je peux m'y rester 5 minutes. Je vais un peu aller vite parce que je voulais quand même parler.
Et puis en France, on n'était pas resté trop à l'écart de ce genre de choses. Il y avait donc des textes de Nautier, Turcotte, Gautier, Dumas, des nouvelles, mais il y a des gens qui étaient des grands feuilletonistes qui se sont attelés vraiment à l'histoire du Empire et qui en ont fait donc des romans et des fois des choses tout à fait inhabituelles. Dans les deux qui sont importants, c'est Ponson du Terrail avec La Baronne Trépassée et donc Paul Treval qui a fait un roman qui s'appelle La Vampire et un autre roman qui s'appelle La Ville Vampire. Alors c'est deux choses différentes parce que La Baronne Trépassée de Ponson du Terrail, c'est une histoire avec donc des morts, des gens qui sont des morts vivants et qui sont il y a toute une histoire d'aventure avec une espèce de malédiction qui poursuit des personnages et tout. La Vampire de Paul Féval, c'est une histoire, voilà, toujours d'aventure, de cap et d'épée, de drame, mais qui se déroule dans le Paris du début de l'ère napoléonienne, puisqu'en fait ça se passe sur le fond des conspirations de Cadoudal qui a été guillotiné en 1804. Donc là, c'est politique, c'est un personnage de noble comme ça, mais qui est manipulatrice. C'est très. Je raconte pas la fin, comme ça va être une porte, mais bon. C'est vraiment du roman feuilleton, mais avec les codes du roman feuilleton et des personnages de vampires qui sont de loin. Par contre, La Ville Vampire de Féval, c'est qui a été présenté comme une parodie, un truc complètement échevelé pour se moquer des romans noirs à la Anne Radcliffe. Qui faisait toujours fureur, le gothique, donc là on est dans les années 1850-60, et le roman noir qui datait fin 18e est toujours très prisé, c'est l'histoire de fantômes, machin, avec ses excès de plus en plus, parce que c'est de plus en plus codé au fil du temps, donc les excès sont de plus en plus flagrants, quoi, parce que les auteurs ne peuvent plus trop inventer, c'est tellement balisé que. Et celui qui fait exploser ça, c'est Paul Féval, qui avec La Ville Vampire, c'est un court roman qu'on peut trouver assez facilement maintenant, hein, qui a été republié par Marabout, on le trouve très facilement d'occasion. Et alors, bon, il dynamite tout, c'est avec des vampires complètement qui transforment leurs victimes en animaux, c'est un truc complètement à l'ouest. Et pas du tout dans. C'est une parodie, alors donc, effrénée des romans gothiques, et c'est aussi, à la limite, une parodie de. C'est le roman feuilleton, poussé dans tous ses excès, dans tous ses délires, et là, ils ont mis le turbo. Enfin, c'est des vampires. D'ailleurs, il n'y a plus de scénario, quoi. C'est plus vraiment de scénario, c'est une bande de vampires en folie et tout. Et ça, c'est très moderne, finalement. Quoi. C'est quelque chose qu'on pourrait retrouver réécrit comme on écrit maintenant, mais je trouve que Paul Féval l'a remasterisé. Pour avoir un succès, et évidemment, personne ne s'apercevrait qu'on aurait compté pour le fait de l'écrire. Alors, bon, on va arrêter là parce que je le sens qu'il est toutes les minutes. Et donc, on va terminer là-dessus, on va terminer ça par un coup de chapeau à Paul Féval qui, à côté de tous ses collègues qui ont préparé la nuit de Dracula, lui, avec La Ville Vampire, il a fait du vampire dément, du vampire foufoufou. On pourrait dire que c'est un autre monde foufoufou, le monde de l'au-delà, et qui peut-être est quelque part peut-être le plus moderne de la bande, d'ailleurs, dont on a parlé. Voilà. Ça va, c'est bon.
Impeccable.
Merci à Richard Desnolades pour une présentation, ce qui est court pour des vampires. C'était une présentation très vivante. Donc, si vous avez des questions.
Le mot vampire, ça vient d'où ?
Ah, le truc exact. C'est un mot, c'est.
C'est Oupir, non ?
Oui, c'est ça.
C'est de Oupir, ça vient
c'est ça vient de Rome centrale, de toute façon.
Et du aussi, je crois.
Il y avait les vampires, c'est autre chose. C'est un mélange.
C'est un mélange
d'êtres humains
et de vampires.
Ouais, de vampires. Oui, c'est un mot. C'est un mot de. J'essaie de trouver. Enfin, c'est un rapport avec l'histoire de Bohème Moravie. C'est ça. Il y avait les vampires.
Il y a eu les vampires. Ça vient du cerf, non?
Oui, c'est ça.
Et puis il y a les broncolas qui sont les Grecs.
Ouais, ça c'est les Grecs. Et dans l'Antiquité, les démons buveurs de sang s'appelaient des succubes, des incubes, des lamies. Enfin, ils avaient tout un. Le vampire lui-même n'est pas apparu comme ça. Il est apparu, c'est une longue tradition, au départ, de démons buveurs de sang dans l'Antiquité, et qui ont été. Quand l'Église, donc en Europe occidentale, a devenu un pouvoir vraiment puissant, au détour de l'an 1000, on voit apparaître les premières histoires donc de morts-vivants qui sortent, qui seraient sortis sous forme plus ou moins matérielle de leur tombe, parce que c'était déjà des gens un peu malfaisants de leur vivant pour commencer à créer des problèmes autour d'eux, et qui sont assimilés à des créatures du démon, et donc le vampire devient démoniaque et satanique. Comme le sera le loup-garou, surtout avec tous les procès de sorcellerie qui vont se faire avec l'Inquisition, et surtout en Allemagne, parce que c'est pas du tout en Espagne qu'on a les histoires entre les loups-garous, les vampires, c'est en Allemagne que ça a été où il y a eu le plus de gens qui ont été condamnés pour ça, pour commercer avec le diable. En France, on a eu une histoire de loup-garou connue, c'est celle de Gilles Garnier en 1570, où c'était lui un serial killer, quand on regarde comment ça s'est passé, et qui a été, pour être sûr qu'il le condamne et tout, on a fini par lui faire dire tout ce qu'on voulait plutôt, et il disait qu'il avait croisé un homme bizarre dans la forêt autour de Dole, dans le Jura, et qui lui avait donné un onguent qui, si je le passais, il serait sûrement loup. Donc voilà. Et comme ça, il tuait les enfants et tout comme ça, mais en fait, c'est un serial killer. Mais donc, il y a des tas d'histoires de serial killers qui ont été assimilées à des histoires de vampires et de loups-garous. Et jusqu'à ce qu'on arrive à la fameuse affaire de Bohème Moravie, qui a été vraiment un espèce de, pas de scandale, mais c'est quelque chose de. On n'imagine pas maintenant, on se dit, ouais, comment une histoire a pu se propager comme ça. Mais oui, c'est devenu. Pour que ça devienne un des espèces d'épouvantail des Lumières, le vampire, c'est que tout a été cristallisé, tout ce qui était un peu comme ça, fugitif, et devient cristallisé avec les Oupirs, c'est ça, de la Bohème Moravie, et ça devient un objet du scandale. Et c'est un objet du scandale qu'on croyait avoir fait disparaître et que la littérature a récupéré et a fait renaître, et je pense que si les gens qui ont combattu la mode des vampires au XVIIIe siècle, vous voyez ce qui se passe maintenant, et dans ce cas, je pense que Don Calmet nous fera une attaque cardiaque directe en regardant les voies, parce que il dirait, je le ferai vraiment en vain, parce que il n'a pas œuvré en vain, mais il a carrément allumé une mèche sans le savoir, parce qu'en fait, tout ce qu'il avait dit contre les vampires dans son traité, qui concernait aussi d'autres créatures, mais c'était les vampires, c'était un des bons morceaux de l'affaire, tout ce qu'il a dit, tout le monde s'en est resservi, évidemment, après, parce que c'était une excellente source de renseignements et de documentation pour monter le mythe du vampire littéraire et cinématographique, parce que c'est le cinéma qui a encore amplifié tout. Mais la mèche, elle a été allumée dans un ouvrage contre, qui était destiné à écraser ça une bonne fois pour toutes. Voilà.
Je crois que nous pouvons encore remercier.